Que vous m'entendez bien?
Oui, OK.
Parfait. Alors, juste avant de poursuivre dans notre série, ça m'a frappé ce matin avec les 10 lépreux. Là. Les 9 autres, pourquoi ne sont pas retournés à Jésus? Ben, c'est pas marqué. Mais connaissant la nature humaine, écoutez, le diagnostic de lèpre, là, c'était un diagnostic de mort. Tu étais exclu de la communauté, tu ne pouvais plus faire affaire, tu ne pouvais plus voir ta famille. Fait que quand ils sont guéris, là, c'est comme s'ils reprenaient vie. Hein? Puis pourquoi ils ne sont pas retournés, d'après vous? J'ai tellement d'affaires à faire, là! Mais hey, maintenant, je suis en vie, là! Je suis en vie. Je vais reprendre mon travail, je vais reprendre mes activités, je vais voir mes amis, etc., etc. Non? Sûrement. Bien, en tout cas, ça, c'est ce qui m'est venu là, ce matin. Puis j'ai dit, hop là, je suis peut-être comme ça moi aussi, là. Hein? J'oublie. Je suis tellement content d'être en vie. Hein, d'être joyeux, d'avoir la vie, que j'oublie de retourner pour remercier le Seigneur à chaque instant. Et en tout cas, je voulais vous partager ça. Ce matin, on va mettre le PowerPoint, s'il vous plaît, Jonathan. Merci beaucoup, Jonathan. Jonathan, il fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup, Jonathan. On est dans une série qui s'appelle « Qu'attends-tu de ton avenir? » Est-ce que ton avenir est certain ou incertain? Bien, si on demandait à les gens dans la rue ce matin, que pensez-vous de l'avenir? Est-ce que c'est certain que ça va aller mieux? Êtes-vous certain de votre avenir? Quel espoir avez-vous face à l'avenir? Je pense que par les temps qui courent, avec les guerres, les problèmes écologiques, les problèmes économiques et tout, les pandémies, c'est inquiétant. Les gens sont inquiets, sont incertains face à l'avenir. La Bible nous parle d'une espérance, l'espérance que Dieu donne aux croyants. Et cette espérance-là est résumée dans Romains 15, 13, que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et on a vu que l'espérance, la définition biblique de l'espérance, pas la définition de la rousse, OK? La définition biblique, c'est une, quoi? Assurance. Tu es sûr à 100% que quelque chose qui a été promis par Dieu va arriver assurément, elle va s'accomplir. Hein? Et ça n'existe pas en dehors d'un Dieu tout-puissant qui a toute connaissance et qui est partout en même temps. C'est impossible sans Dieu. Mais avec Dieu, c'est possible. Alors, si tu as cette espérance ce matin par rapport à Dieu, parce que tu connais Dieu, c'est un cadeau extraordinaire qui devrait remplir donc ton cœur de joie et de paix. C'est un carburant. Et c'est un ancre. On a vu Paul, l'apôtre Paul, il dit, car nous avons cette espérance comme une ancre de l'âme qui tient notre barque dans la bonne direction face à la tempête, nous empêche de sombrer, parce que l'être humain ne peut pas vivre sans espérance. Et qu'est-ce que l'être humain fait? Bien, il se crée des espoirs. Il se donne des fausses espérances dans la science, dans ses capacités, dans l'avenir, dans toutes sortes de choses, mais c'est des illusions, parce qu'on ne peut pas contrôler l'avenir. Seul Dieu peut faire ça. Bien, qu'est-ce qu'on a vu à date? C'est que l'espérance du croyant, premièrement, on a vu trois enseignements sur l'espérance d'un corps ressuscité, transformé. Une des choses qui nous hante, une des choses qui nous terrifie même en tant qu'être humain, c'est quoi? C'est la mort. Et qu'est-ce qui précède la mort? Cette dégradation dans notre santé, dans nos capacités qu'on voit là, qui est inexorable avec le temps. Et ça nous trouble. Et Dieu peut nous donner l'espérance d'un corps ressuscité, transformé, glorieux, fort, spirituel, etc. On a vu ça. Et c'est une espérance incroyable, l'espérance de revivre. Et deuxièmement, la semaine passée, on a commencé le deuxième aspect de l'espérance, c'est de recevoir un royaume éternel, de participer au royaume de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, c'est parce que mon imprimante n'a pas marché ce matin, fait que je suis obligé de prendre mon écran ce matin. Je ne sais pas si vous avez vécu l'expérience sûrement, comme moi, ou ce que la parole qu'un ami vous donne, « Ah oui, je vais être là demain pour t'aider » ou une promesse quelconque, eh bien, vous avez vécu une déception par rapport à ça. Levez la main, tout le monde. Tout le monde a vécu ça. La valeur de la parole de quelqu'un se construit avec le temps et les expériences du passé, pas vrai? Si ton ami te promet quelque chose et que tu n'y attaches pas beaucoup d'espoir, c'est qu'il t'a déçu plusieurs fois par le passé. Moi, j'ai des amis qui, s'ils vont me dire quelque chose, ben, je dis dans ma tête, c'est 50%, tu sais, il y a 50% de chance que ça va s'accomplir, puis 50% non. Pourquoi? Parce que, à cause de mes expériences. Et on a tous des amis comme ça. En revanche, on souhaite tous avoir des amis sur qui on peut vraiment, vraiment, vraiment compter. Pas vrai? Mon épouse Lorraine est quelqu'un de très, très fiable, que si elle me promettait quelque chose, je pourrais gager ma vie là-dessus. Mais il y a toujours un mais. Par contre, parce qu'elle est un être humain et que l'être humain n'est pas infaillible, puisque sa mémoire est faillible, puisque son contrôle sur les événements de la vie est incomplète, puisque sa puissance est limitée et puisque malheureusement aussi ses motivations peuvent changer, ben non, je ne peux pas être sûr à 100%. Mais c'est une personne extrêmement loyale et fidèle. Et la valeur de sa parole se construit sur le pourcentage du respect de ses engagements, sur sa fiche, hein, la fiche, comme le pourcentage de premier service réussi au tennis, hein, Jean, ou d'un batteur au baseball. On sait que s'il y a une bonne fiche, quand il s'avance au marbre, ben, il y a des bonnes chances qu'il frappe un coup sûr. Mais dans le cas du Dieu Tout-Puissant, roi de l'univers, notre espérance que sa parole va s'accomplir, elle est totale. Elle peut être totale. La semaine dernière, nous avons vu que le royaume de Dieu est un royaume à venir qui est physique, terrestre, et qui remplacera tous les systèmes de gouvernement qui se sont succédés à travers l'histoire depuis le temps où ce que les hommes ont commencé à développer des systèmes gouvernementaux. On a vu ça à travers le livre de Daniel. Alors, dans le livre de Daniel, on a un récit. Bon, ça, on a vu ça. OK, ça, on va passer, Jonathan. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Le royaume de Dieu est un royaume physique terrestre qui remplacera tous les royaumes. OK, on continue. La semaine passée, on a vu que Daniel, qui était un juif, avait été déporté en Babylone, puis le roi de Babylone, Nabuchodonosor, avait eu un rêve qui l'avait troublé, et le rêve, c'était d'une statue énorme avec les différentes parties du corps qui étaient faites de différents matériaux. Et il était troublé par ça et il n'était pas capable de se rappeler du rêve, premièrement, et ses hommes sages, ses devins, ses astrologues ne pouvaient pas lui dire c'était quoi. Mais Daniel, Dieu lui a révélé c'était quoi le sens de ce rêve-là. Et Dieu a révélé à Daniel que c'était une succession d'empires qui allaient se succéder à travers l'histoire, et que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, était représenté par la tête en or au, au haut de la statue. Ensuite est venu le royaume des Mèdes et Perses qui ont succédé directement aux Babyloniens, qui est représenté par le torse et les bras en argent. Ensuite, les hanches et le ventre et les hanches en bronze, qui représentent l'Empire grec. Et finalement, Alexandre le Grand, ce royaume-là a été remplacé par les Romains, qui a été divisé aussi dans le 4e siècle en deux, scindé en deux, la partie orientale, la partie occidentale. Et que finalement, la statue termine, ses jambes sont en fer, OK? Puis finalement, les pieds sont à moitié fer, moitié argile. Et que finalement, à la fin du rêve, arrivait une grosse pierre de nulle part pour fracasser le statue au niveau de ses pieds. Et toute la statue allait se faire pulvériser et allait partir comme un balle de foin au vent. Donc, toutes ces choses-là qui ont été révélées à Daniel et à Nebuchadnezzar autour de l'an 600 avant Jésus-Christ, se sont réalisés. Et on peut se demander, pourquoi Dieu a révélé ces choses-là tellement longtemps à l'avance? Pourquoi c'est important pour nous de savoir ces choses-là? Que la révélation de Daniel, la statue, ça représente tel empire, tel empire, tel empire, tel empire. Pourquoi c'est important? Je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que c'est justement pour prouver que la parole de Dieu, c'est toujours, quoi? Accomplie. La parole de Dieu, que Dieu a révélée, c'est accompli. Ça veut dire que la partie qui reste à accomplir, ça va, quoi? S'accomplir. Voyez-vous? C'est pour ça que c'est important d'étudier ces choses-là. Dieu nous rassure. Dieu s'affiche, là. Au bat, là, c'est 100%. Il n'en manque pas une. Et qu'est-ce qui reste à venir? Bien, c'est ce royaume-là, parce que dans le rêve, la pierre qui vient heurter la statue, elle devient une montagne qui remplit la terre. Et on a vu après ça que Daniel a eu un autre rêve, qui était parallèle à ce rêve-là, sur quatre bêtes effrayantes qui représentaient encore une fois la succession des empires babyloniennes, médo-perses, grecs et romaines, et qu'à la fin, ça c'est dans Daniel 7, à la fin, il arrivait quelqu'un qui s'appelait le Fils de l'homme. Et il avait une révélation du ciel et ce fils de l'homme, qui veut dire un humain, qui vient devant Dieu, on lui a donné l'autorité, le règne pour toujours et dominera sur les nations pour toujours. C'est un règne qui est éternel et qui ne sera jamais, jamais remplacé. Ces choses-là, là, je vous fais juste un résumé rapide parce que c'est sur Internet, l'enseignement, je crois. Et puis, on a vu que le titre « Fils de l'homme », Jésus s'est identifié comme ça. L'expression « Fils de l'homme » dans Daniel, Jésus a utilisé cette expression-là pour se décrire dans les évangiles plus que n'importe quelle expression. Il dit « Le Fils de l'homme est venu, par exemple, donner sa vie. » Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme va se faire trahir. Le Fils de l'homme, etc., etc. Il n'a pas dit Fils de Dieu. Il a dit Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il faisait référence au fait que lui, c'était l'être humain parfait que Dieu avait choisi pour devenir le roi de ce royaume-là. L'autre expression qu'on a vue, c'était Fils de David. Parce que Dieu avait promis à David qu'il allait lui donner un héritage éternel, un trône éternel. Bon, maintenant, les disciples et beaucoup d'autres personnes croyaient que Jésus avait comme agenda d'établir son règne, son royaume, immédiatement pendant son ministère. Et même, vous vous rappelez là, que la mère de Jean et Jacques est allée voir Jésus pour lui demander « Est-ce que Jean peut s'asseoir à un côté de Jacques? » Puis, finalement, Jésus est crucifié et les Romains sont toujours là. N'oubliez pas là, que le royaume éternel de Dieu là, va remplacer, et ça c'est important, va remplacer tout autre royaume. Fait que, à la mort, et après ça, la résurrection de Jésus-Christ, l'ascension, tout ça, mais le royaume de Rome est toujours là, là. Le royaume de Rome est toujours là, puis a persisté dans l'ouest jusqu'à l'an 400 à peu près, et dans l'est jusqu'à 1400. Et même les historiens, avant, ils parlaient de la chute de Rome, maintenant ils parlent du déclin de Rome, parce que, en fait, l'Europe, puis beaucoup, beaucoup de pays, on peut dire que c'est le système romain qui continue. Et également, n'oubliez pas qu'en l'an 400 quelque chose, Constantin a mis fin à toutes les persécutions des chrétiens dans l'Empire romain en adoptant le christianisme comme religion de l'État romain. Et c'est le commencement de l'Église catholique romaine, qui est la religion d'État de l'Empire romain. Okay? Fait qu'ici, ce n'est pas de dire qu'on veut partir en guerre contre l'Église catholique romaine, pas du tout, mais le système de l'Empire romain a continué à travers l'aspect religieux de l'Empire romain. Le système de l'Empire a continué et existe encore aujourd'hui. OK? Fait que Jésus, est-ce que Jésus a failli à sa tâche? Est-ce que Jésus a manqué? Est-ce qu'il a raté d'établir son royaume? Les disciples croyaient qu'il allait établir son royaume physique. Mais Jésus a clairement enseigné dans les évangiles que le royaume de Dieu est d'abord et avant tout un royaume, quoi? Spirituel. Spirituel. Maintenant, attention, ça n'enlève rien à l'aspect physique qu'on a vu la semaine passée, que le règne de Dieu qui va venir, le royaume, va être physique, terrestre, il va régner sur la terre, il va régner sur les nations, et ça, c'est clair. OK? Ça n'enlève pas. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Mais c'est d'abord spirituel. Voici ce que Jésus a dit, Jonathan, si tu veux changer. Et voici la phrase sommaire, de l'enseignement de ce matin. Pour participer au royaume de Dieu qui est d'abord spirituel, il faut y accéder ici, maintenant, par la porte qui est Jésus, le Messie. OK, on continue. Un jour, les pharisiens lui demandèrent, « Quand arriverait le royaume de Dieu? » Jésus leur répondit, « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas, « Venez ici où il est là, car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous, ou dans certaines versions, au-dedans de vous. » OK, on continue. Quand on y pense un peu, on réalise que la cause principale pour laquelle tous les royaumes humains, tous les empires qui se sont succédés, tous les modèles de gouvernement, socialisme, communisme, capitalisme, tous les modèles ont failli, ont échoué. C'est en raison des dispositions égoïstes du cœur humain. Vous pouvez avoir le plus beau système politique possible. Qu'est-ce qui arrive sans exception? C'est que tout ça éventuellement est bousillé par la corruption, par les intentions égoïstes des leaders, que ce soit communistes, capitalistes, socialistes, peu importe. Le problème, c'est à l'intérieur. Le problème est d'ordre spirituel. La Bible nous dit que nous, les êtres humains, nous sommes nous nous sommes révoltés contre Dieu. Nous avons dit, Dieu, laisse-moi vivre ma vie tranquille. Laisse-moi tranquille. Depuis le début. Et qu'on a été chacun suivre son propre chemin. Mais en faisant cela, on se retrouve loin de la source de la vie, loin de la source de l'amour, loin de la source de la lumière, et nous nous retrouvons avec nos motivations et nos désirs, et nous sommes nos propres petits dieux. Nous avons fait fi de Dieu et de ses principes en vivant comme bon nous semblait, et la Bible nous dit que nous sommes séparés d'avec lui. Et c'est pourquoi nous vivons déjà cet avant-goût de l'enfer ici. Les gens disent, l'enfer, c'est sur la terre. Moi, je dis, vous avez raison, en partie. En partie. Parce que la Bible dit, l'enfer, c'est la séparation éternelle avec Dieu. La source de lumière, de bonté, de beauté, de vérité. Et la Bible dit qu'actuellement, les êtres humains sont séparés d'avec Dieu. Fait que c'est vrai que nous vivons déjà un avant-goût. Nous commençons, mais ce n'est pas l'enfer ici. En fait, pour plusieurs personnes, la terre va ressembler à plus, le plus qu'ils ont jamais goûté au paradis possible. Et donc, pour que le Fils de l'homme et le Fils de David, le Messie, établissent son royaume sur les êtres humains, il lui fallait d'abord régler ce problème de révolte interne du cœur humain. Et c'est précisément pour ça qu'il fallait régler cette séparation d'avec Dieu, cette mort, en mourant lui-même, en prenant sur lui tes péchés, mes péchés, en acceptant de subir le jugement de Dieu contre ces choses-là et nous offrir la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Il s'est sacrifié pour que toi, tu puisses être régénéré et participer à son royaume spirituel et physique. Il a dit à Nicodème, dans Jean 3, qui était Nicodème, un leader spirituel de la nation juive, qui faisait tout son possible pour plaire à Dieu, mais qui avait des questions, il s'était troublé, il n'avait pas de certitude. Il est venu voir Jésus en cachette et il commence à poser des questions. Jésus dit, Nicodème, tout de suite, il arrête. Il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme, une femme, ne naisse pas de nouveau, il ne peut pas quoi? Voir le royaume de Dieu. Et c'est l'aspect spirituel qui est nécessaire pour participer au royaume physique à venir. Donc, si tu veux participer au royaume physique futur, il faut que tu, aujourd'hui, acceptes Jésus comme ton sauveur personnel pour entrer dans ce royaume spirituel pour pouvoir participer un jour au royaume physique de Jésus. Il faut accéder aujourd'hui à ce royaume. Il faut naître de nouveau, naître spirituellement. Puis ce que j'aimerais faire maintenant, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série qui a été faite, ils ont commencé il y a à peu près 3 ans, ça s'appelle L'Élu, The Chosen en anglais. Puis il y a dans cette série-là, une représentation de la rencontre entre Jésus et Nicodème. Puis j'aimerais ça qu'on l'écoute. On va changer de source ici. On va donner nous juste 30 secondes pour nous installer, pour pouvoir vous le faire jouer, OK? Es-tu né de nouveau? As-tu rencontré le Christ comme sauveur? Ton sauveur? Il faut naître de nouveau pour accéder au royaume de Dieu, pour recevoir cette nouvelle vie qui est essentielle à rentrer dans le royaume, reconnaître qui est Jésus. Et si tu le fais, tu accèdes déjà maintenant, tu fais déjà partie du royaume de Dieu. On va changer la source, oui. Pour conclure. Pierre dit, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ entre les morts pour nous donner une espérance vivante, encore l'espérance, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il tient en réserve pour vous dans les cieux qu'il vous garde, vous qu'il vous garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Paul dit, quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Déjà, citoyens maintenant. Et de là, des cieux, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver de les effets du péché, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à sa volonté. Et encore dans Colossiens prochain, vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ces choses faites, si tu es comme ce lépreux qui a été guéri et tu reviens à Christ et dis, « Seigneur, tu es mon sauveur. » Prions. Père, merci pour ce temps ensemble ce matin qui a été béni en ta présence, Père. On te remercie pour ta parole qui est la lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Seigneur, depuis le temps que Jésus, ton Fils bien-aimé, a foulé cette terre, rien n'est changé dans un sens. Il s'est présenté comme la lumière du monde. Il s'est présenté comme le sauveur du monde. Et chacun a dû se positionner. Il est venu comme la lumière du monde et beaucoup de gens ont préféré les ténèbres à sa lumière. Aujourd'hui, en 2023, c'est la même chose. Dans ta grâce, tu permets aux gens de encore se positionner face à Jésus, face à ta vérité, face à ta lumière. Et pour nous qui avons fléchi le genou devant Jésus, Seigneur, qu'on ne soit pas comme ces 9 lépreux qui ont poursuivi leur chemin, qui ont continué de vivre leur vie, qu'on fasse demi-tour, qu'on revienne à toi, Seigneur Jésus, qu'on donne notre louange, notre adoration et nos vies à toi. Ce matin, le Seigneur nous interpelle, comme il interpellait Nicodème, « Viens, suis-moi, suis-moi. » Oui, Seigneur Jésus. Je veux te suivre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je ne sais pas si on avait un dernier chant ou non. Oui? Il y en a un?